Tout va bien. J'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis pour venir jusqu'ici. J'espère que vous êtes bien installés dans le temple. J'espère que vous n'avez pas trop peur de quitter ce temple après pour rentrer chez vous. Enfin, j'espère que dans votre vie chrétienne, vous vivez plutôt sereinement et tranquillement, sans crainte pour votre vie. Si tel est le cas, ben, vous avez de la chance. Enfin, nous avons de la chance de pouvoir vivre ici notre foi sans craindre pour notre liberté, pour notre vie. Nous avons de la chance parce qu'il est bien des pays dans ce monde où les chrétiens n'ont pas la même chance. On évalue à peu près à 50 pays dans notre monde les lieux où les chrétiens sont persécutés, sont emprisonnés, sont parfois assassinés, doivent se réunir clandestinement. On estime que ça touche un chrétien sur 9 dans le monde, c'est-à-dire un chiffre considérable de nos frères et sœurs qui ne peuvent pas vivre librement leur foi, qui ne peuvent pas se réunir comme nous tranquillement dans un temple. Et je pense en particulier aujourd'hui au Burkina Faso qui, vous le savez, depuis quelques semaines, est un pays dans lequel il y a des attaques contre des églises. Dimanche dernier, par exemple, il y a eu un commando qui est rentré dans une église et qui a tué 4 personnes. 3 semaines avant, il y avait eu 6 personnes tuées au Burkina Faso, le 13 mai, par des hommes qui ont mitraillé dans une église. Fin avril, des hommes sont entrés dans un temple et puis ont tué le pasteur, 2 de ses enfants et 3 des paroissiens à l'issue du culte. Enfin bref, nous savons qu'il y a des lieux où il est difficile d'être chrétien et où ça coûte même la vie. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été depuis le début du christianisme, depuis la toute première génération. Il y a eu ainsi, contre les chrétiens, contre certains chrétiens, de la persécution, de l'assassinat, de la torture, de la prison. Pour beaucoup, être témoin de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui conduit au martyre. Et vous savez peut-être d'ailleurs que le mot martyr, en grec, en fait, il veut dire témoin. Le verbe grec marturein, ça veut dire témoigner. Ça ne veut pas dire souffrir, mourir, être persécuté, ça veut dire témoigner. C'est par l'histoire chrétienne que ce verbe est devenu synonyme de souffrance et de répression. Le martyr, dans un premier temps, c'est celui qui témoigne. C'est ce qui arrive à Étienne. Étienne, dont nous venons d'entendre la fin de l'histoire, dans le passage qui vient de nous être lu, Étienne qui est considéré comme le premier martyr chrétien, dans le sens de celui qui va donner sa vie pour ce qu'il prêche. Alors je vous rappelle simplement, rapidement, que Étienne, c'était un des membres de la toute première communauté chrétienne. Ça se passe très peu de temps après que Jésus soit mort et ressuscité. La communauté se rassemble et elle a besoin de s'organiser. Il y a des inégalités sociales entre les membres de la communauté, alors on désigne 7 membres de l'Église pour être vigilants à la juste distribution des biens entre les membres de l'Église. Ils sont chargés de la diaconie. Parmi ces 7, il y a Étienne. Et ces 7 hommes, qui sont donc chargés d'un travail diaconal, ne peuvent pas le séparer de leur foi chrétienne, alors ils se mettent en même temps à prêcher, à partager la bonne nouvelle. Et en prêchant, en partageant la bonne nouvelle, ils se heurtent à l'hostilité du monde environnant, aux autorités notamment du peuple juif, à ceux-là même qui, quelques semaines avant, ont arrêté Jésus pour le mettre à mort. Étienne est arrêté et il comparaît devant le conseil supérieur, devant le Sanhédrin, donc devant les grands chefs, les religieux du peuple juif, qui lui donne la parole pour savoir que faire de ce témoin de Jésus-Christ. Et Étienne va faire un long discours dans lequel il va retracer toute l'histoire biblique d'une manière critique, c'est-à-dire en faisant apparaître combien, génération après génération, les responsables, les prêtres, les rois, tous ceux qui se sentaient puissants, ont rejeté tous ceux qui venaient parler au nom de Dieu. Il relit l'histoire avec cet angle de vue pour arriver à ses auditeurs, qui sont donc ces membres importants, qui ont capacité de juger des affaires civiles ou religieuses dans le judaïsme, pour leur dire finalement, c'est à votre tour, maintenant, d'être ceux qui vous trouvez en position de refuser la bonne nouvelle. Alors, fureur dans le Conseil supérieur, c'est le passage que nous venons de lire, et Étienne est condamné à mort, exécuté, il est lapidé, c'est-à-dire à coups de pierre, c'est-à-dire cette forme de mise à mort qui met à part, loin, celui qui est considéré comme impur. On l'exclut complètement de la vie, du corps social, on essaie de se débarrasser, en fait, de l'évangile que prêche Étienne. Étienne est donc ce premier martyr, cette première personne à mourir pour sa foi dans l'histoire du christianisme. C'est le premier d'une longue série, génération après génération, d'hommes et de femmes qui vont donner leur vie pour témoigner de l'évangile. La manière dont ça nous est raconté, très étrangement, enfin c'est peut-être pas étrange, c'est peut-être fait exprès d'ailleurs, met en parallèle Étienne et Jésus. Vous l'avez peut-être entendu, mais comme Jésus, Étienne est accusé de blasphémer contre le temple de Jérusalem. Comme Jésus, Étienne confesse qu'il voit le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Comme Jésus, il remet son esprit au Seigneur. Comme Jésus, il demande pardon pour ses bourreaux. Et comme Jésus, il pousse un grand cri au moment où il meurt. Comment mieux dire, en fait, que le témoin, Étienne, que tout témoin, finalement, en partageant l'Évangile, se met dans la suite de Jésus-Christ, se met à vivre de la même vie que Jésus-Christ, jusqu'à être rejeté par ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle. Voilà le récit que nous venons d'entendre. Alors ce récit m'a posé trois questions, et je voudrais les partager avec vous. La première de cette question, c'est comment ça se fait que l'Évangile, qui est une parole de vie, une parole de paix, une parole de liberté, déclenche autant d'hostilité, au point qu'on veuille faire mourir des personnes qui vivent ou qui partagent l'Évangile. Pourquoi tant d'hostilité suscitée par cette parole que nous trouvons, nous, être bonne nouvelle ? Alors, dans le texte que nous venons de lire, il y a la dernière phrase que dit Étienne, qui me semble porter le cœur de ce qu'est la foi chrétienne dans tout ce qu'elle a à la fois de plus condensé et en même temps de plus insupportable pour les puissances de ce monde. Étienne, c'est la dernière parole qu'il dit avant que la fureur s'empare de son auditoire et qu'on se précipite pour le mettre à mort. Étienne dit « Écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Je vois les cieux ouverts, dit Étienne. Alors, il faut se rappeler que dans l'Antiquité, on imaginait que la terre était plate et on pensait que le ciel était comme une cloche à fromage ou un saladier renversé, hein, une voûte autour, enfin qui couvrait la terre. Et que au-dessus de la voûte se trouvait Dieu. Voir les cieux ouverts, c'est une manière de dire cette voûte n'est plus un obstacle entre Dieu et nous directement. Je vois les cieux ouverts, directement, je suis en communication avec Dieu. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire entre Dieu et nous, il n'y a plus de limite, plus de séparation. Dieu est en relation immédiate avec moi, dit Étienne, avec nous. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme. Alors quand Étienne parle du Fils de l'homme, il emploie une expression connue par ses auditeurs, parce qu'elle vient de l'Ancien Testament, elle vient du prophète Daniel. Quand Daniel écrit aux Juifs qui sont en exil à Babylone pour leur redonner espérance, leur annoncer qu'un jour ils vont être libérés, que Dieu va intervenir, Daniel le fait en utilisant des images, des symboles, des visions. Et il y en a une dans laquelle il décrit, il voit le ciel, et dans le ciel, il voit un vieillard, c'est une image de Dieu, et il voit le Fils de l'homme qui descend du ciel et qui vient ouvrir un règne de paix sur la terre. Le Fils de l'homme, quand Daniel en parle, eh bien c'est une figure du Messie, celui qui est envoyé par Dieu pour venir rejoindre les êtres humains là où ils sont, pour les aider à entrer dans le règne de Dieu, c'est-à-dire dans un temps de libération et de paix. Quand Étienne dit cela, il utilise une expression que Jésus citait couramment. C'est que Jésus parle de lui-même le plus souvent en disant « le Fils de l'homme ». Pour se mettre à la fois dans cette suite de ce que dit Daniel, c'est-à-dire le Messie, et aussi cette expression qui dit l'incarnation, c'est-à-dire la venue proche de nous dans notre histoire. Dans le Nouveau Testament, c'est toujours Jésus qui parle du Fils de l'homme, sauf dans ce passage, qui est l'unique passage où c'est quelqu'un d'autre que Jésus qui parle du Fils de l'homme, c'est Étienne. Pour ses auditeurs, il est évident qu'il parle de Jésus en disant « Je vois le Fils de l'homme, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme ». Il parle de Jésus comme étant le Messie. « Je vois le Fils de l'homme debout », dit Étienne. Ce mot « debout », c'est le même mot que l'on trouve dans les récits où Jésus, après sa résurrection, apparaît à ses disciples. Il se tient debout quand les disciples sont rassemblés. C'est une manière de confesser le ressuscité. C'est une manière pour Étienne de dire « Ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité, il est vivant. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu », dit Étienne. À la droite de Dieu, ça veut dire à la place d'honneur, auprès de Dieu, c'est-à-dire tout proche de Dieu, c'est-à-dire complice de Dieu, c'est-à-dire en Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Étienne confesse là la seigneurie du Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Alors voilà, c'est ça qui est insupportable pour les hommes qui l'entendent. Ce sont des personnages importants qui ont du pouvoir et qui ont notamment la capacité d'avoir la main sur l'accès à Dieu. Et tout d'un coup, Étienne leur dit « Mais non, en Jésus-Christ, le Messie venu de la part de Dieu parmi nous, que vous avez éliminé, mais qui est ressuscité, c'est Dieu lui-même qui était là. » Parole qui casse toute leur autorité, tout leur pouvoir, toute leur puissance. Tout ce qu'ils essayent de confisquer pour eux-mêmes, alors forcément c'est insupportable, alors forcément ils essaient d'éliminer celui qui vient ébranler leur situation. Voilà pourquoi l'Évangile souvent déchaîne l'hostilité. C'est que quand on le comprend bien, eh bien il vient déstabiliser les seigneurs du monde. Jésus-Christ est le Seigneur, c'est une manière de dire il n'y a personne d'autre qui peut avoir autorité fondamentale sur nous. Alors forcément, tous ceux à qui le pouvoir échappe essayent non seulement de s'y accrocher, mais aussi d'éliminer ceux qui dérangent. Voilà pourquoi il y a tant et tant de martyrs à travers notre histoire. Mais là, je me suis posé une deuxième question. Étienne est donc mis à mort pour avoir prêché l'Évangile. Et il sait qu'il va être mis à mort quand il prêche l'Évangile. Mais il le fait quand même. Alors la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui fait qu'il a en lui cette dynamique, on pourrait dire, qui le pousse à prêcher l'Évangile quand même? Étienne n'est pas un homme fondamentalement différent de nous. Il n'est pas décrit comme un être extraordinaire. C'est un chrétien parmi les autres. Le texte ne nous dit pas que Étienne cherche à mourir, en a marre, ou voudrait souffrir, pas du tout. Le texte nous dit simplement qu'il témoigne de ce qui est important pour lui, quelles qu'en soient les conséquences. Mais alors s'il n'a rien de plus que nous, qu'est-ce qui fait qu'il est capable d'en arriver là? Qu'est-ce qu'il a en lui qui l'aide? Et alors là, le texte, tout le chapitre 6, 7 du livre des Actes, nous dit des choses très importantes. C'est que Dieu est avec lui. Il est rempli de force par la bénédiction de Dieu, nous dit le texte. Il parle avec la sagesse que lui donne l'Esprit Saint. Il est en quelque sorte inspiré par Dieu. Ce n'est pas par ses propres qualités personnelles, c'est parce que l'Évangile en lui est tellement puissant, tellement fort, qu'il ne veut pas le retenir et il le partage quoi qu'il en coûte. Non pas par ses qualités à lui, mais par la puissance de Dieu en lui. Et c'est tellement fort que non seulement il va jusqu'à la mort, mais même au moment de la mort, il est capable encore de confesser sa foi, et même de pardonner à ceux qui lui tuent, c'est-à-dire à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Il reçoit une paix profonde, en quelque sorte, dans un moment de violence extrême comme lui. J'ai pensé là à Dietrich Bonhoeffer. Vous connaissez ce pasteur allemand qui était résistant à Hitler et qui a été pour cela, parce qu'il contestait lui aussi la seigneurie du Führer, au nom de Jésus-Christ seul et Seigneur, a été arrêté, condamné à mort et exécuté quelques semaines avant la fin de la guerre, en avril 1945. Et la veille de sa mort, il avait 39 ans, il savait qu'il allait mourir le lendemain, qu'il allait être exécuté le lendemain. La veille de sa mort, il a dit « C'est la fin. Pour moi, c'est le début de la vie. » Quelle phrase de témoignage extraordinaire de quelqu'un qui sait qu'il va quitter cette vie terrestre violemment, mais qui entre dans son espérance, comme Étienne. Et c'est même plus fort que ça encore, parce qu'une fois que Étienne est tué, nous dit le texte, eh bien la répression se répand sur tous les chrétiens à Jérusalem. Il y a là Saul, vous avez entendu, celui qui deviendra l'apôtre Paul après sa conversion, mais qui pour l'instant fait partie de ceux qui sont furieux contre les chrétiens. Les chrétiens sont persécutés, on va les chercher dans les maisons, on les emprisonne, certains s'enfuient. Et ceux qui s'enfuient, ce n'est pas pour se cacher et ne plus rien dire, c'est pour répandre la bonne nouvelle ailleurs. Alors qu'on veut stopper l'évangile, l'évangile se répand. Pour le dire autrement, et dans la vie d'Étienne, et dans la vie des témoins, et dans la vie de tous ces chrétiens, l'évangile est plus fort que tout ce qui peut les faire arrêter. Et il en était ainsi tout au long de l'histoire du christianisme. Au premier siècle, tous les chrétiens qui ont été persécutés par l'Empire romain, qui ont été conduits dans les arènes pour être mis à mort, pour servir d'exemple, pour que personne ne devienne chrétien, et bien finalement, le christianisme s'est répandu, la foi chrétienne est, a été annoncée dans tout l'Empire romain. Au Moyen-Âge, tant et tant d'hommes et de femmes conduits au bûcher pour leur manière libre de croire en Dieu, et jamais on a pu faire taire l'Évangile. Au moment de la Réforme, tant d'hommes et de femmes qui se sont dressés pour que l'Église retrouve la saveur de l'Évangile et qu'on a persécuté. Et pourtant, l'Église n'a jamais cessé d'être réformée depuis. Sous Louis XIV, pour les protestants français, combien d'hommes et de femmes conduits aux galères ou en prison pour le simple fait de vouloir dire « tu » à Dieu, de pouvoir tutoyer Dieu, de pouvoir lui parler directement. Et pourtant, leur résistance, résister, comme a écrit Marie Durand, emprisonnée dans la tour de Constance pendant 38 ans, pour sa foi, pourtant leur résistance a été signe et encore signe pour nous de cette force de l'Évangile. Et on pourrait continuer encore et encore jusqu'à tous ces chrétiens à travers le monde qu'on ne peut pas faire taire. Malgré toutes les persécutions et les violences, l'Évangile est plus fort et les rassemble. Et ils continuent à vivre l'Évangile et à le prier. C'est un sacré témoignage pour nous de cette force de l'Évangile. Et là, c'est une troisième question qui m'est apparue, et je voudrais terminer par là. À chaque époque, il y a donc l'Évangile qui crée l'hostilité quand il est prêché. À chaque époque et à chaque lieu du monde, il y a des hommes et des femmes qui sont emplis de l'Évangile à tel point qu'ils continuent à le vivre et le partager. Alors la question qui arrive là, c'est qu'en est-il pour nous ici, aujourd'hui ? Nous qui sommes bien tranquilles finalement, à pouvoir vivre notre foi sans craindre pour notre vie, qu'en est-il de notre manière de vivre l'Évangile ? Est-ce que c'est une parole qui est fade, qui n'a plus de goût ? Pourquoi est-ce que nous pouvons la vivre tranquillement ? Alors bien sûr, et pour que ce soit bien clair, il ne s'agit pas de chercher l'hostilité. Il ne s'agit pas de chercher à être persécuté. Il ne s'agit pas de chercher à souffrir. L'Évangile est à l'opposé de ça. L'Évangile est pour nous faire vivre. Mais voilà, si nous le vivons vraiment, alors forcément, il nous bouscule. Et alors forcément, il bouscule le monde. Si nous confessons vraiment que Jésus-Christ est le Seigneur, alors forcément, nous remettons en question tout ce qui, dans le monde, essaie d'être notre Seigneur, tout ce qui pèse, emprisonne, enferme, tout le mensonge qu'il y a dans notre monde, toutes les recherches de pouvoir qui détruisent le lien, toutes les injustices. Enfin, je ne vais pas faire un catalogue, mais nous savons combien il y a de lieux où l'Évangile nous appelle à nous engager. Est-ce que l'Évangile est suffisamment fort en nous pour que nous le vivions? Est-ce que nous sommes suffisamment emplis de l'Esprit-Saint pour que cette parole qui nous fait vivre soit quelque chose qui bouscule notre monde? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est une question à laquelle chacun de nous se coltine toute sa vie, finalement, de se dire quelle est la part de l'Évangile dans mon existence. Est-ce que le fait de vivre tranquillement est quelque chose qui nous éteint, qui nous endort? Est-ce que l'Évangile perd son goût? C'est une vraie question qui nous est posée. Comment nous sommes témoins? Comment nous sommes martyrs? Alors bien sûr, martyrs au sens de témoins. Par martyrs au sens où des hommes dans notre monde mettent des bombes ou tuent d'autres personnes en se disant « je suis ainsi martyr ». Non, l'Évangile, encore une fois, est l'inverse de cela. Mais comment nous en sommes témoins? Avec notre vie, avec notre existence, notre quotidien, notre vivre ensemble. Témoins du crucifié, venu rejoindre les plus malheureux de cette terre. Témoins du ressuscité, debout pour ouvrir un temps d'espérance. Témoins dans l'Esprit-Saint qui met cela en nous. Témoins en Église, ensemble, d'une communauté ouverte, accueillante, engagée, protestante dans le sens qui proteste contre tout ce qui détruit et qui en même temps témoigne de tout ce qui construit. Comment sommes-nous aujourd'hui des hommes et des femmes amoureux de l'Évangile au point de vouloir le partager avec tout le monde? Je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, bien sûr, ou pour nous mettre un poids supplémentaire, simplement parce que c'est une question que nous avons en nous, cette joie que donne l'Évangile. Qu'est-ce que nous en vivons et qu'est-ce que nous en faisons? Et là, je voudrais pour terminer vous raconter une toute petite anecdote. Dimanche dernier, j'étais avec les catéchumènes qui vont confirmer, dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, pour une journée de retraite avec eux. Et ces catéchumènes préparent quelques paroles pour partager leur foi, qui nous diront dimanche prochain au cours du culte du matin à Pontemont. Et ils ont préparé leur texte et puis ils les ont recopiés sur l'ordinateur. Et il y a une catéchumène qui a fait une faute de frappe. Elle voulait écrire « Jésus Sauveur ». Et puis, le premier « U » est tombé. Elle a écrit « Jésus Saveur ». Et j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait. Jésus Saveur. C'est-à-dire qu'il y a du goût. C'est-à-dire qu'il est en nous pour donner du goût. Là, je ne trouve même pas d'autre mot. Hein. C'est-à-dire qu'il est en nous tellement bon que nous avons envie de le partager avec d'autres. C'est ça, en fait, être témoin. Jésus Saveur en nous. Jésus Saveur du monde. Jésus avec nous pour en témoigner. Jésus debout, à la droite de Dieu, les cieux ouverts, Fils de l'homme qui vient vers nous et qui porte notre témoignage. Voilà la vie à laquelle nous sommes appelés. Et c'est une vie pleine de saveur, en fait. Amen.